Soyez les bienvenus parmi nous. On est heureux de pouvoir vous accueillir. Et je suis contente de voir un petit peu plus de monde dans les rangs, parce que là, je me disais, oh là là, il y a peu de monde ce matin. Bon, après, ce n'est pas le nombre qui compte. C'est la qualité. Merci, Français. Je ne voulais pas finir la phrase, mais tu l'as fait à ma place, donc merci beaucoup. Il était une fois, il y a de cela fort longtemps, un roi qui ne croyait absolument pas en la bonté de Dieu. Comme tous les rois de ce monde, il avait de nombreux esclaves. L'un d'eux n'avait pas la langue dans sa poche, bien au contraire. En toutes circonstances, il disait « Mon roi, ne vous découragez pas, tout ce que Dieu fait est parfait, il est infiniment bon. » Un jour, alors qu'il était à la chasse, une bête sauvage s'attaqua au roi. L'esclave tua l'animal, mais ne put empêcher sa majesté de perdre un doigt. Le roi se mit dans une colère faramineuse. De la fumée sortait de ses oreilles et de ses narines. Furieux et hors de lui, il dit « Dieu, est-il bon ? S'il était bon, je n'aurais pas été attaqué et je n'aurais pas perdu mon doigt. » L'esclave prit une profonde respiration avant de répondre. « Mon roi, en dépit de toutes ces choses, je peux seulement vous dire que Dieu est bon. Il connaît le pourquoi de toutes ces choses. Ce que Dieu fait est parfait. Il ne se trompe jamais. » Indigné par la réponse de l'esclave, le roi ordonna qu'on le jette en prison. Fin de la première partie de mon histoire. J'invite sans plus tarder Eric Christen à venir nous faire la lecture du psaume 34. Il y a mon écran qui n'est pas allumé là. Désolée. Merci beaucoup.
Psaume 34, le salut de l'Éternel pour le juste, de David. Lorsqu'il se fit passer pour un fou en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute la fierté de l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux, alors préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris, mais il se tourne contre ceux qui font le mal, pour effacer leurs souvenirs de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toutes leurs détresses. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Mais le malheur fait mourir le méchant, les ennemis du juste sont condamnés. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation.
Merci beaucoup, Eric. Gaëtan, il y a encore un tout petit problème avec l'écran, là. C'est qu'il y a quelque chose d'écrit, puis il faut presser sur « OK ». S'il te plaît, je suis désolée. Merci. Nos contemporains et notre société en général cherchent des méthodes, des recettes bien précises afin de trouver le bonheur. Les proverbes chinois vont également dans le même sens. Commence par rire et tu seras heureux. Nombreux sont ceux qui consultent des coachs de vie. Ce n'est en soi pas une mauvaise chose. Certains ont réellement besoin d'une aide psychologique. Quant à nous, nous avons le privilège d'avoir la ressource par excellence, la parole de Dieu. Le psaume 34 est un vrai chef-d'œuvre. C'est la recette parfaite pour vivre une vie heureuse. Ce psaume est ce qu'on appelle dans le jargon théologique un psaume acrostiche, c'est-à-dire chaque verset commence par les lettres successives de l'alphabet hébreu, à l'exception du dernier verset. David est l'auteur de ce magnifique psaume. Il fait référence à 1 Samuel 21-13. C'est l'histoire quand David, pour échapper aux Philistins, fait croire au roi Achish de Gath qu'il est devenu fou. Aujourd'hui, nous allons utiliser certains de nos sens. Décortiquons un peu ce psaume. La partie centrale du psaume nous invite à goûter et voir combien Dieu est bon, c'est-à-dire constater, expérimenter la bonté de Dieu. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Psaume 34, 9. Le goût et la gustation est l'un des sens qui permet d'analyser la saveur des aliments. Il envoie des messages précis et détaillés au cerveau. Celui-ci classe les aliments selon l'amertume, la douceur et la consistance. Quand on goûte un plat, on a tout de suite une réaction. C'est bon. Celui-ci procure du plaisir à nos papilles. Ou bien bof, c'est pas extraordinaire. Ou bien encore, c'est pas du tout à notre goût, pour rester poli. Goûtez et voir combien Dieu est bon. Qu'est-ce que cela veut bien vouloir dire? Tout d'abord, c'est faire une sorte de pari sur la bonté et la grâce de Dieu. C'est croire en Dieu, avoir la foi en Dieu. Blaise Pascal, dans son célèbre argument philosophique « Le pari », encourage les sceptiques à croire en Dieu. Celui-ci n'a absolument rien à perdre. Goûtez à la bonté de Dieu. C'est en premier lieu faire un pas de foi en acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de notre vie. Ensuite, et alors seulement, nous expérimentons et pouvons voir sa bonté en action. Constatez qu'effectivement le Seigneur est bon chaque jour que Dieu fait, et ce, dans tous les domaines de notre vie. Après avoir goûté et constaté combien le Seigneur est bon, il est essentiel d'aller plus loin. Nous sommes appelés à grandir dans notre foi, à grandir en maturité. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. 1 Corinthiens 3, 2. Pour atteindre la maturité spirituelle, nous devons impérativement et de tout cœur chercher Dieu. Ce que l'on cherche ardemment a pour nous de la valeur. Le mot « chercher » de l'hébreu « dahash » apparaît à maintes reprises dans l'Écriture. Il signifie « demander, s'enquérir de, examiner ». Ce terme est toujours lié à un mouvement. Donc on ne cherche pas en restant inactif, statique. Quand on cherche, on s'implique personnellement. On donne de sa personne. Psaume 34, 5. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. » Que cherchons-nous dans notre vie? Ou plutôt, qui cherchons-nous? Qu'est-ce qui préoccupe nos pensées? Qu'est-ce qui préoccupe tes pensées? En effet, voici ce que dit l'Éternel à la communauté d'Israël. « Cherchez-moi et vous vivrez. » Amos 5, 4. Ou encore, « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu Israël. » Amos 4, 12b. « Église de reconvilier, cherchez-moi et vous vivrez. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. » J'ajouterai ta vanne encore dans les églises du fait que nous avons Anna, Tondini, ma voisine qui est parmi nous. Comment peut-on réellement chercher Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire? Chercher Dieu, c'est d'abord venir à Dieu pour la toute première fois, la conversion. Revenir au Seigneur Jésus-Christ après s'être peut-être un peu éloigné de lui. Se réengager pour Dieu. C'est avoir une relation avec lui, passer du temps dans sa présence, apprendre à toujours plus le connaître, l'adorer, le prier. Passer du temps dans la communion avec Dieu, passer du temps dans la communion entre frères et sœurs, lire sa parole et la laisser nous transformer, avoir une vie de piété, ceci est essentiel. Se laisser transformer à son image, à sa ressemblance, être redevable envers nos frères et sœurs en Christ, vivre en toute humilité, en cohérence avec la parole de Dieu. Ceci est vraiment un exercice qui est extrêmement difficile. Ce psaume nous invite à prendre quotidiennement le Seigneur au sérieux. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Ésaïe 55, 6. 2 Chroniques 15, 12. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, de tout leur cœur et de toute leur âme. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Nous lisons ça dans Matthieu 6, 33. Quand on tourne les regards vers lui, le Dieu de Jésus-Christ, on rayonne de joie. Nous sommes dans sa présence, nous rayonnons de joie. Ressens-tu la joie quand tu es dans la présence de Dieu? Ceci est une vraie question. Ressens-tu de la joie dans ton cœur quand tu es dans la présence de Dieu? Si ce n'est pas le cas, cherche-le. C'est ce qu'il veut. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Lamentation 3, 25 à 26. La suite logique à la recherche de Dieu est bien évidemment la crainte de Dieu. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Il ne s'agit pas de trembler de peur devant Dieu en attendant le jugement, en pensant que c'est un Dieu qui est mauvais, qui est méchant, qui nous vaut du mal. Non, pas du tout. C'est une crainte révérente, pieuse, qui nous pousse à chercher la sainteté et la volonté de Dieu. C'est avoir un profond respect pour le Seigneur. C'est en quelque sorte avoir peur, je le mets vraiment entre guillemets, mais je n'ai pas trouvé d'autres mots qui allaient mieux que ça, de lui désobéir, avoir peur, avoir envie de lui obéir et pas de lui désobéir et de pas le décevoir. C'est le considérer pour qui il est, le roi des rois, souverain, maître, créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui existe et existera. L'Église catholique, en tout cas en ce point-là, à mes yeux, ils ont vraiment quelque chose de plus que nous. Ils ont cette révérence envers Dieu que nous, dans le milieu réformé, on a quand même un petit peu perdu. Savoir, réaliser, on est devant le roi des rois, on est devant sa majesté, on est devant le créateur de toutes choses. On a un souffle. Nous pouvons être décimés. C'est incroyable. Et combien de fois, en tout cas, en ce qui me concerne, je l'oublie ou je ne réalise même pas la sainteté de Dieu et de qui il est. La crainte de Dieu nous pousse à vouloir lui plaire et nous pousse à nous détourner du mal, à choisir le bien. La crainte de Dieu nous guide à Christ. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison sainte. Sa gloire subsiste à perpétuité. Psaume 111, 10. La crainte de Dieu est le secret de la droiture. Proverbe 8, 13. La crainte de Dieu est une des caractéristiques de celui en qui Dieu prend plaisir. Désirons-nous que Dieu prenne plaisir en nous? J'en suis persuadée. Sinon, je pense qu'aucune personne qui est ici là ce matin ne serait là si ça ne serait pas le cas. Dieu prend plaisir en celui qui le craint. La crainte de Dieu est le devoir de l'homme. Ecclésiaste 12, 13. Romains 3, 10 à 12 dit: il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent. Aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés ensemble. Ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Selon Luther, l'homme naturel ne peut craindre Dieu parfaitement. D'un autre côté, cette crainte est aussi un don de Dieu qui permet à l'homme de révérer l'autorité du Seigneur, d'obéir à ses commandements, de détester et de fuir toute forme de mal. Je trouve ceci tellement, tellement juste. Je reviens à mon histoire sur le roi et son esclave. Bien des années plus tard, le roi partit à nouveau à la chasse. Il fut capturé, par des sauvages qui ressemblaient plus à des animaux qu'à des êtres humains. Ceux-ci faisaient des sacrifices humains. Ils attachèrent le roi sur l'autel du sacrifice. Juste avant de l'offrir à leur divinité, les nobles sauvages constatèrent qu'il lui manquait un doigt. Le roi, imparfait, n'était donc pas digne d'être offert en sacrifice. Ils le relâchèrent. À son retour dans son palais, il libéra son esclave et le reçut chaleureusement. Il lui dit: « Mon cher, Dieu a été vraiment bon pour moi. J'ai failli être tué par ces sauvages, mais parce qu'il me manque un doigt, ils m'ont relâché. J'ai juste une question à te poser. Si Dieu est si bon, pourquoi a-t-il permis que je te jette en prison ?» L'esclave répondit du tac au tac: « Mon roi, si j'étais venu avec vous à cette chasse, j'aurais été sacrifié à votre place parce qu'il ne me manque aucun membre. Mais Dieu est bon, il a voulu que chacun de nous vive. » Avec Dieu, il nous faut tout d'abord goûter à sa bonté. Ensuite, le chercher et apprendre à toujours plus le connaître. Et après, la crainte de Dieu nous pousse à vouloir lui plaire et à lui obéir. Dieu prend plaisir en celui qui le craint. Ce psaume est, à mon avis, un bijou, Lisons et méditons-le. C'est un vrai encouragement lorsqu'on traverse une épreuve, un découragement ou une période de doute. C'est le psaume par excellence pour vivre et être heureux, à bon entendeur. Je m'arrête là, car nous allons, comme Francine l'a dit au début, vivre un moment interactif. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon.